7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'habitat en partage ou la colocation sous toutes ses formes. Partager son logement avec des personnes âgées quand on est étudiant ou encore avec des personnes handicapées ou tout simplement partager un loyer devenu trop cher. L'habitat partagé s'est développé avec la crise économique, du moins en Europe. Réduire ses dépenses, échapper aussi à la solitude qui n'épargne aucune génération. Ce sont des solutions qui certes demeurent encore marginales mais qui interrogent. L'habitat peut-il devenir un espace de rencontre, d'ouverture sur le monde, voire un acte solidaire? Nous allons en parler avec nos invités. Mathurin, alias Stéphane Audouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de J'habite au troisième âge. Vous avez fait partie de ces 4500 étudiants qui partagent chaque année le logement d'une personne âgée. Vous avez partagé la vie de Germaine, 96 ans, pendant 2 ans. Et c'est pas de tout repos d'ailleurs quand on lit votre récit. Vous avez raconté donc cette colocation pas si banale dans un récit avec des illustrations, parce que vous êtes illustrateur à la base. Hein.
Oui, c'est ça.
Designer, J'habite au troisième âge. Karim Goudiabi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'un site commercial qui s'appelle apartager.com, qui est le premier site de colocation en France.
C'est bien ça.
Et qui est installé maintenant dans 25 pays.
Tout à fait.
Fondé aux États-Unis à la fin des années 90, et maintenant vous êtes du nord au sud.
Oui, effectivement, on couvre différents marchés, des États-Unis à l'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil par exemple, jusqu'en Australie, en Océanie. On couvre naturellement l'Europe et quelques pays, notamment les Émirats.
Et donc la colocation, c'est finalement un phénomène très international aujourd'hui. Évidemment, les voisins, on attend vos témoignages si vous partagez votre logement avec d'autres personnes que des membres de votre famille, que ce soit pour des raisons économiques ou d'autres d'ailleurs, de solidarité. Vous nous appelez pour partager votre expérience. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Malik à Dakar nous dit qu'au Sénégal, il y a une vraie solidarité entre les étudiants. Dans une chambre universitaire en colocation, on y retrouve parfois 12 personnes. Oui, ça effectivement, j'ai vu ça sur certains campus. Abou nous dit qu'il est à l'université de médecine à Bamako, Mali. Il y a une sorte de discrimination entre étudiants. Il nous dit qu'on ne vit pas ensemble ou on ne vit ensemble que si on est du même pays ou même village et que ça crée des polémiques entre nous. Nous dit Abou, parfois même des affrontements, le tout sans raison valable. Gloria, qui est à Antisrabé, à Madagascar, en coloc, nous dit Gloria, le plus important, c'est finalement de se parler, de ne pas hésiter à dire les choses, surtout ce qui nous dérange. Abdoulaye, à Nouakchott, en Mauritanie. Ici, la colocation n'a rien de solitaire, c'est uniquement, de solidaire plutôt, c'est uniquement dans un intérêt économique pour payer moins de loyer. Voilà, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71 dès maintenant ou encore évidemment réagir en direct sur Twitter, hashtag 7 milliards. Karim Goudiabi, donc directeur du site apartager.com, site de colocation en France. Vous nous le disiez, le phénomène maintenant est mondial du nord au sud, mais c'est un phénomène ancien, la colocation, qui n'a pas attendu Internet.
Non, tout à fait. On a des colocataires, d'ailleurs plus âgés, qui remontent et qui nous ont passé des témoignages de colocation pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de colocation dans les années 50. Donc je pense que c'est un phénomène assez ancien. En France, ça s'est développé au tout début des années 2000, un peu grâce à j'irais la mode anglo-saxonne et les séries, notamment Friends, que tout le monde reconnaîtra. Et puis ensuite, la crise, le désir de plusieurs personnes de bouger vers les villes et d'habiter en ville a fait qu'on a de plus en plus de personnes qui souhaitent faire de la colocation.
Ça a démarré vraiment aux États-Unis, évidemment, avec la vague Internet.
Totalement. Et ça a démarré. En fait, les étudiants américains partagent de facto une chambre. Mmh. Et c'est comme ça que la colocation a démarré.
Parce que les études sont très chères, en plus. Hein.
Effectivement. Et en France, on a un petit peu adapté le concept, puisqu'en général, la colocation s'appelle, c'est un partage d'appartements et pas un partage de chambres.
Mais alors, votre clientèle aujourd'hui, ce sont et avant tout des étudiants?
Ça dépend vraiment des périodes de l'année. Si je prends le premier trimestre, c'est avant tout des jeunes professionnels, un peu plus de la majorité du site. Ensuite, quand on regarde le deuxième trimestre et le troisième trimestre, on va retrouver des étudiants et on a une part de plus en plus croissante de plus de 40 ans.
Alors, vous devez évidemment vous adapter à des logiques, à des habitudes différentes. Vous êtes présent au Venezuela, au Chili, au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Colombie, Singapour, Argentine. Comment vous faites? Ça fonctionne pas de la même façon. Je ne parle pas de l'aspect juridique là, hein, des réglementations, mais même de l'aspect commercial.
Alors l'aspect commercial, de manière assez intéressante et finalement assez proche. Dans certains pays, le service est gratuit. Dans d'autres pays, comme en France, le service est un service commercial. Mais au final, les étudiants ou les jeunes professionnels qui sont en colocation dans ces grandes villes, une personne qui habite à Mexico City, il y a 24 millions d'habitants, a probablement des problématiques de logement encore plus importantes qu'une personne qui habite à Paris où il y a 8 millions d'habitants. Et donc les problématiques sont assez similaires. En revanche, il y a des différences au niveau légal et il y a aussi quelques différences culturelles où on accompagne les utilisateurs du site à se comprendre. L'un de vos utilisateurs parlait de communication, c'est effectivement l'élément le plus important.
Ouais, c'est ça pour se supporter finalement.
C'est souvent ça.
Ouais. Au départ, c'est vraiment un choix économique chez vous, les gens qui viennent sur le site pour être en colocation.
Il y a plusieurs motivations. La première est très clairement la motivation économique. C'est avoir un logement et partager un logement avec un budget plus limité. À Paris, c'est environ 500 euros le prix moyen. Et la deuxième motivation, c'est l'espace. Mmh. En colocation, on a beaucoup plus d'espace. Mathurin, tu peux probablement...
C'est exactement ça.
Justement, vous avez vécu alors pendant 2 ans avec donc une dame de 96 ans dans une maison avec un petit jardin, me semble-t-il.
Un grand jardin,
si j'en crois vos illustrations dans votre récit. Vous n'aviez pas pensé à une colocation entre étudiants ?
Non, tout simplement parce que moi j'ai fait des études assez longues, donc j'ai vécu quand même pendant 9 ans en CTU. Donc les étudiants c'est bien, mais à un moment donné on a envie, comme le disait Karim, de plus d'espace et de vivre dans un autre type de logement, à savoir une maison.
Et pourquoi avec une dame de 96 ans, donc un lien, enfin une colocation intergénérationnelle, elle était propriétaire de sa maison. Alors là, vous n'y avez pas de loyer à payer.
Non, en fait c'était une formule quand vous avez quand vous inscrivez dans une association intergénération, vous avez deux formules. La formule à loyer modéré, où là vous payez par exemple 120 euros et vous n'avez pas de service spécifique à rendre à la personne. C'est vraiment de la présence et c'est vivre ensemble.
Vous c'était un peu comme jeune homme au pair, mais pour une personne âgée finalement.
Moi c'était la formule comme Karim l'expliquait. C'est j'arrive en région parisienne, j'ai vraiment pas d'argent, j'arrive en stage, donc c'est 400 euros. Donc quand vous voyez les loyers à 500, c'est fini, injouable. Donc du coup, moi j'ai opté pour la formule 0 euros. Donc là c'était des services à rendre, à savoir aller faire des courses de temps en temps, fermer les volets ou donner un petit coup de ménage.
Facile de trouver une place chez une personne âgée quand on est un garçon, d'autant
compliqué.
Plus
compliqué, car on n'enlève pas quand même dans l'esprit des gens qu'une femme c'est plus sérieux, c'est plus
et serviable.
Serviable aussi, et un homme, il y a un petit côté volage toujours dans l'esprit des personnes âgées, et c'est ce qui a été difficile au début. L'avantage que j'ai eu avec la demande de Germaine, c'est qu'elle cherchait un homme, car c'était une grande maison et elle avait peur des cambrioleurs, et que pour elle, une femme face à un cambrioleur, ça tenait pas la route. Donc elle cherchait en priorité un homme, et ça a été le début d'une belle histoire.
Qu'est-ce que vous avez aimé finalement, malgré les... Parce que quand on vous lit, c'est pas de tourpeau, hein.
Non, c'est vrai.
C'est plus que le contrat finalement.
J'ai toujours tendance à dire que finalement, on rentre dans une famille. Enfin, j'ai été accueilli par Germaine, mais également par ses deux fils. Il y avait des repas de famille. On rentre dans une maison remplie de souvenirs. C'est une histoire. Et au fur et à mesure des repas, des cafés qu'on partageait ensemble, je creusais un petit peu cette histoire finalement familiale.
Parce que vous aviez cette curiosité-là ?
Oui, parce que en fait, je me suis dit, j'aurais aimé peut-être poser plein de questions à mes arrière-grands-parents que je n'ai pas eu la possibilité de poser. Et comment, par exemple, à 20 ans, on vit pendant la Deuxième Guerre mondiale, des choses, qu'on n'ose pas toujours poser, des questions qu'on n'ose pas toujours poser à ses grands-parents, et qu'on ose tout simplement avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille.
Et trouver son espace personnel en même temps, parce que vous êtes là pour être logé.
Oui, mais alors c'était très simple, parce que comme c'était quand même une maison assez grande, Germaine avait le premier étage et moi j'avais le rez-de-chaussée.
Ah oui, d'accord.
Donc c'était assez tranquille à ce point de vue-là.
Depuis, cette dame est décédée.
Oui, elle nous a quittés, ouais.
Mais vous êtes resté en lien avec
avec sa famille. Comme je vous disais, c'est vraiment... moi, c'est une étape qui était importante pour moi. Parce qu'au début, il y a évidemment l'aspect financier. On se le cache pas, moi je le cache absolument pas. Mais au fur et à mesure, vous vous attachez aux personnes. Et finalement, vous vivez énormément de choses ensemble. Et on a maintenu des liens.
Vous
pensez
à quelque chose en particulier? Vous n'auriez pas soupçonné, peut-être en vous-même?
Quelque chose par rapport à la vie avec une personne âgée.
Oui, qui avait 60 ans de plus, 70 ans de plus.
Oui, peut-être la chose qui m'a le plus étonné, c'est de se dire qu'à un moment donné, on passe par toutes les étapes. On est un ami, un confident, et aussi parfois un parent. Parce qu'une personne âgée, par moment, aussi, c'est un enfant. On doit veiller sur elle, et par moment, faut garder cette bonne distance avec l'adulte.
Vous nous appelez les voisins, les voisines. On parle de cette colocation, de cet habitat en partage sous toutes ses formes, quelles que soient les raisons. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Reportage maintenant. Ils sont handicapés moteurs, souvent à la suite d'ailleurs d'un accident. Jamais ils n'auraient envisagé de vivre en colocation. Et pourtant, c'est ce que leur proposent les maisons partagées de l'association Simon de Sirène. Notre reporter Charlie Dupiot a visité la première maison ouverte qui a été ouverte il y a 3 ans, à Vanves, en proche banlieue parisienne. C'est une vraie résidence partagée qui accueille 70 personnes dans plusieurs appartements. Au rez-de-chaussée, il y a un jardin, des salles à manger dites communautaires. Aucune marche, bien sûr, rien n'est en hauteur, tout est accessible. Et ce samedi-là, le déjeuner est partagé entre résidents handicapés et assistants dans les locaux d'une association de quartier à 2 pas de la maison.
Nadine, qu'est-ce que je te fais ?
Merci, je veux de l'eau.
Alexandra, tu veux ? Des arriettes de sardines ?
Non, merci. Non. Et bon appétit !
Je m'appelle Aude, j'ai 33 ans et je vis à Simon de Sirène depuis presque 3 ans et demi. Dans un studio qui a des accessibilités aussi au niveau de la salle de bain. On est tous dans un même lieu et on se rend visite, on s'invite les uns chez les autres. Enfin, on a des pièces communes qui nous permettent de nous retrouver tous aussi.
Vous êtes en fauteuil roulant.
C'est un handicap moteur. Quand j'étais petite, en fait, voilà, j'avais 1 an et demi. J'ai eu une complication au niveau de ma santé et qui a engendré ce handicap. Et j'ai aussi un handicap visuel qui m'a beaucoup limitée. Ça a commencé à l'adolescence.
Vous êtes malvoyante ?
Voilà, oui, de manière assez importante. Mais voilà, j'ai appris à vivre avec.
Et aujourd'hui, comment vous vivez le regard des autres ?
Il était difficile quand j'étais enfant et adolescente. Plus tard, en fait, ça a changé. Pour vous donner un exemple, je suis allée faire une course tout à l'heure avec un assistant.
Un assistant, en fait, c'est les personnes qui habitent avec vous,
oui,
qui sont valides, mmh, et qui travaillent à temps plein dans la maison partagée.
Et en fait, on n'arrêtait pas de rire dans le magasin. Et du coup, les gens nous regardaient, mais en souriant, riant, tout ça. Et là, je me dis, là, on a tout gagné, en fait. La plus belle chose, c'est d'arriver à ce que les autres, en vous voyant, n'aient pas envie de pleurer ou de vous plaindre ou quoi, mais ils ont envie de rire. Voilà.
Avant d'habiter dans cette maison, vous habitiez où ?
J'étais en coloc avec ma sœur.
Est-ce que vous n'aviez pas peur, en décidant d'aller dans une maison partagée, de vous isoler entre personnes handicapées ?
Ça a été l'appréhension de mes proches. Pas trop la mienne, je dois dire, même pas du tout. Ils avaient peur que je m'enferme effectivement dans un lieu où il y avait d'autres personnes en situation de handicap et que, en fait, ça me fasse régresser au lieu que ça me fasse évoluer, en fait. C'est complètement l'inverse qui s'est produit. Parce que souvent, en famille, on a envie de vous aider, mais en faisant beaucoup plus à votre place. Parce que ça va plus vite. Et je le comprends, hein. À Simon de Sirène, j'ai dû me prendre encore plus en main, en fait.
Par exemple, quel geste vous avez appris à faire ?
Mettre le couvert, faire les courses aussi, parce que à la maison, souvent, on allait faire les courses, j'y allais pas forcément. On prend le temps, en fait. On prend le temps d'être ensemble, de se dire bonjour, de se demander comment ça va. Aujourd'hui, on entend tellement parler de l'isolement. Je dis que des lieux comme Simon de Sirène peuvent avoir une répercussion dans le quartier et puis peut-être se propager.
Tu veux du café ?
Oui, avec. Je veux bien
avec
du café.
Vous êtes aussi résident ici dans la maison Simon de Sirène ?
Depuis 4 ans maintenant. Moi, c'est un problème au cerveau, un problème neurologique, au début de la trentaine. À cette époque-là, j'habitais seul. Une fois que j'étais handicapé, je suis revenu vivre chez mes parents. J'ai le problème de marche, d'équilibre, de locution. J'ai besoin de quelqu'un pour mes déplacements, par exemple.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'habiter dans cette maison-là ?
C'est le fait d'avoir mon studio. On vit ensemble, on prend le repas ensemble, on prend le petit déjeuner ensemble.
Donc avec les colocataires de votre appartement ?
Nous sommes 6 résidents handicapés. Et avec aussi des personnes valides, des assistants, on peut passer du temps chez soi et après passer du temps avec les autres. Tous ces moments-là font que la vie est belle. C'est la bonne solution.
Élie, je suis responsable d'appartement Timon-Sirène-Vambe.
Pour les assistants, c'est un engagement à part entière parce qu'il s'agit aussi de vivre sur place et donc de vivre avec des personnes qui ont parfois un handicap assez lourd, assez visible. Comment vous, vous vivez ça?
Bah, je partage ma vie. Alors, pas complètement, dans les détails en fait. À la fois le fait de prendre son petit déjeuner, mais souvent le mardi soir, une soirée appartement où c'est le jour fixe où tous les membres de l'appartement, résidents et assistants qui vivent sur place sont là. À certains moments, oui, c'est difficile, mais je crois profondément à la vie partagée et à la vie communautaire qui dit quelque chose pour la société. La fragilité, la vulnérabilité, quand on la porte ensemble, c'est une force. C'est pas un problème.
Voilà pour ces maisons partagées de l'association Simon de Sirène. Et le concept d'ailleurs est SEM. Une dizaine de villes en France vont suivre cet exemple et accueillent des maisons partagées sur le même modèle. Elles sont financées en grande partie par des subventions publiques, mais aussi par les loyers qui sont payés par les résidents, à hauteur bien sûr des aides sociales qu'ils perçoivent. Vous connaissez ce système-là, Mathurin, non, je crois?
Oui, j'avais eu l'occasion de rencontrer le fondateur. Laurent de Cherizet. Donc on avait pu en discuter et je trouve que c'est vraiment une initiative magnifique de pouvoir comme ça impliquer les gens dans la société sans stigmatiser un handicap. Je veux dire, ils vivent normalement comme nous, il faut les prendre tels quels.
Karim Goudiabi.
Moi je ne connaissais pas, je suis ravi d'ailleurs de le découvrir et ce sera avec plaisir qu'on contactera Laurent et qu'on essaiera même avec un partager peut-être de les soutenir, vous parliez de subventions, peut-être de les accompagner dans leur développement en proposant à la fois les annonces sur notre site mais aussi en les aidant peut-être financièrement. C'est une excellente initiative.
On a l'impression que finalement aujourd'hui les projets à la fois commerciaux comme le vôtre hein, qui est un site commercial de colocation et puis des projets de solidarité pourraient être amenés à cohabiter ensemble aussi.
Totalement. Et je voulais rebondir d'ailleurs sur un des éléments dont parlait Mathurin plus tôt. Il parlait de l'aspect social, de l'aspect des relations familiales qu'il a développées. Et souvent les colocataires, le retour qu'ils nous font, c'est qu'effectivement la motivation économique est importante, elle est primaire. Mais ensuite, c'est ce développement de relations personnelles, d'amitiés fortes. C'est souvent des colocations qui durent longtemps, plus de 2 ans et demi en moyenne sur notre site. Des gens qui deviennent des amis, qui se connaissent de manière assez importante.
Qui s'invite à leur mariage parfois 10 ans plus tard.
Exactement. Donc il y a un vrai aspect social dans la colocation et il y a une vraie volonté de développer un nouveau réseau quand on arrive dans une ville ou de se créer des amis pour la vie.
Nous sommes en ligne avec un colocataire peut-être, je pense, un voisin qui nous appelle de Russie. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour nous faire partager vos aventures, vos expériences de colocation. Oscar est en ligne avec nous. Bonjour Oscar.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Voronej, à 500 km au sud de Moscou, c'est bien ça, en Russie?
Oui, évidemment, c'est ça.
On vous écoute.
Ok, bon, la colocation, moi, je l'ai quasiment vécu toute ma vie, hein, parce que dès la guerre de 97, parce que je vous rappelle, je suis du Congo-Brazzaville. Donc, lorsqu'il y a eu la guerre, nous sommes partis, on a fui la guerre, nous sommes partis au village, et puis, il a fallu que je puisse continuer les études, et j'étais censé laisser mes parents et partir, et en fait, la grande sœur de ma maman.
Ouais. Et là, vous avez 28 ans, vous êtes étudiant donc en Russie. Vous allez nous faire partager vos expériences de colocation. On va se retrouver, Oscar, juste après le flash, hein, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Restez en ligne avec nous. Et bien sûr, nos invités vous écoutent dans le studio. Karim Goudiabi, Mathurin et les voisins et les voisines. Si vous nous écoutez, vous nous appelez aussi pour nous faire partager vos expériences de logement avec d'autres personnes que des membres de votre famille au 33 1 84 22 71. 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins. Deuxième partie de l'émission. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Colocation, habitat partagé, ça s'est nettement développé, c'est vrai, ces dernières années, pour répondre à des impératifs économiques, on le disait en première partie d'émission, mais aussi parfois une demande d'ouverture sur le monde ou de solidarité maintenant. L'occasion aussi de mieux se connaître soi-même à travers ces formes de cohabitation. Vous nous en parliez d'ailleurs, Mathurin, vous qui avez cohabité avec une dame de 96 ans lorsque vous étiez étudiant, hein, vous avez découvert aussi une autre forme de relation intergénérationnelle, même si vous aviez recherché d'abord un logement gratuit en échange de quelques menus services. Vous publiez « J'habite au troisième âge » et c'est assez drôle, je veux dire, vos échanges avec cette dame qui maintenant est décédée, hélas. Et vous avez fait partie de ces 4500 étudiants qui partagent chaque année le logement d'une personne âgée. Karim Goudiabi, vous êtes directeur du site apartager.com, premier site de colocation en France, fondé d'abord à la fin des années 90 aux États-Unis et maintenant vous êtes dans 25 pays dans le monde. D'ailleurs, vous êtes basé à Londres, votre siège est basé à Londres. Beaucoup de sites en Amérique latine, notamment pas encore en Afrique, hein,
alors,
pour l'instant.
Peu en Afrique, et c'est un souhait pour ma part, puisque ma mère est marocaine, mon père est sénégalais, donc typiquement ça viendra. On a un site de petites annonces au Maroc déjà, donc il y a déjà des annonces de colocation sur notre site de petites annonces. Mais c'est un des continents sur lesquels on a effectivement des désirs de développement.
Nous sommes en ligne avec Oscar qui était tout à l'heure, qui nous appelait au standard juste avant le flash. Rebonjour Oscar.
Rebonjour Emmanuel.
On a été coupé par le flash, je suis désolée, mais vous êtes donc un étudiant congolais du Congo Brazza, vous avez 28 ans et vous cohabitez donc en tant que colocataire en Russie où vous faites vos études, je présume, hein, 500 km de Moscou à Voronej.
Évidemment. Et donc je suis ici depuis 2009. Et donc quand j'ai signé l'année préparatoire, il a fallu que je monte en haut et vivre donc avec des amis. Donc généralement c'est comme ça que ça se passe ici.
Mais vous êtes en colocation avec d'autres étudiants issus du continent africain ou vous êtes en colocation avec des Russes ou
Oui, avec des étudiants africains. Avec les étudiants africains. Et en Russie, généralement, les Russes dans les campus, les Russes vivent entre eux et les Asiatiques souvent entre eux. Et les Africains, entre eux. Donc, quand j'ai fini, j'étais en première année et je vivais donc avec un garde de la Guinée-Conakry et j'étais en première année, il était en quatrième année. Et donc, du coup, bon, il s'est permis de faire des choses qui ne me semblaient pas bonnes, parce que pas moi seul, et l'autre que j'étais avec, parce que nous étions plus en première année. Donc, il se prenait pour le garant de la chambre, il jouait la musique, et donc, il se permet de certaines choses. Donc, et du coup, ça a pris une ampleur qui était devenue insupportable, parce que c'était le conflit, et un jour, il y a eu une altercation entre lui et nous. Et voilà, donc je dirais...
Vous trouvez que c'est pas simple, finalement, de cohabiter, d'ailleurs, y compris avec des étudiants issus du même continent que vous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas forcément simple.
Non, mais le fait n'est pas d'être du même continent, mais c'est de vivre avec des gens, en fait, c'est de vivre. Il faut que vous vivez avec des gens, que vous ayez la même compréhension des choses.
Je pense que
il y a des gens qui peuvent peut-être
On a bien compris ce que vous vivez. On a bien compris ce que vous vivez. Merci de nous avoir appelé, Oscar. On va prendre d'autres auditeurs. Karim Goudiabi veut réagir.
Oui, je voulais dire, paradoxalement, je pense que c'est plus simple de vivre avec des étudiants ou des jeunes professionnels d'autres pays, parce qu'il y a ce souhait d'être ensemble, mais il y a aussi cette compréhension qu'il faut respecter l'autre. Et lorsqu'on a des colocations du même pays, ou en France, des étudiants entre eux, il y a souvent plus de conflits, parce qu'il y a peut-être un peu plus de confort dans la tête, mentalement, et les gens se disent, bon, bah, c'est cool, je vis avec des gens qui me comprennent, donc il y a cette compréhension culturelle naturelle, donc j'ai pas besoin
d'expliquer
les choses.
On fait moins d'efforts finalement.
Exactement.
Ouais. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Un autre témoignage nous parvient de N'Djamena au Tchad. Bonjour Ali, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Emmanuel.
Ali, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans.
Oui, exactement.
Et vous nous appelez pour nous faire partager une expérience de partage d'habitat entre étudiants?
Exactement. Juste l'expérience que j'ai vécue et j'ai vu est une expérience vraiment énorme. Vous savez, ici au Tchad, on a tendance à dire que vivre en colocation avec une personne d'autre que de son ethnie, je m'excuse pour le terme, c'est quelque chose qui pourrait vraiment te changer dans la culture. Or, moi, j'ai vécu vraiment en colocation avec quelqu'un qui est d'autre que ma confession.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je suis musulman et la personne avec qui j'ai loué, c'est quelqu'un qui est chrétien.
Ah oui, donc non seulement c'est pas la même ethnie, mais c'est pas la même confession religieuse. Et comment ça s'est passé?
Non, c'est pas la même. Ça s'est vraiment passé très bien. Je ne m'attendais pas à ça et finalement, on dirait qu'il y a eu des miracles. Et on se comprend vraiment très bien. En fait, on arrive à vraiment comprendre que la religion, c'est vraiment quelque chose qu'on invente pour diviser les gens. Chacun a sa foi. L'islam, c'est dans la mosquée. Le christianisme, c'est dans l'église. Et le fait de vivre ensemble n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, j'ai même constaté que parfois, si l'heure de prière, je dors, il arrive des fois qu'il me réveille pour la prière. Alors, vraiment, vivre en colocation avec quelqu'un d'autre qui est de chez moi et surtout qui est d'autre que ma confession m'a vraiment permis de savoir que l'humanité, c'est vraiment pas seulement être avec ce qu'on a l'habitude d'être.
Oui, merci pour ce message, hein, Ali. C'est un beau message, mais finalement, est-ce que cette compréhension mutuelle, elle s'est développée très facilement sans même vous en apercevoir, ou est-ce qu'au départ, du fait que peut-être qu'il y avait une méfiance partagée l'un envers l'autre, vous avez établi des règles claires?
Bon, au début, je pense qu'il y avait un peu de méfiance, surtout lorsqu'il s'agit de préparer à manger. Et puis après, finalement, on a vraiment eu des règles, on a eu des points vraiment communs et on n'a pas vraiment eu de problèmes. Pas plus de problèmes, il n'y a rien, il y a eu vraiment des problèmes. Il n'y a eu vraiment pas de problèmes.
Mathurin.
Oui, j'avais juste une question. Bonjour Ali. Je voulais savoir, en fait, comment avez-vous été mis en relation? Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble dans cette colocation?
Parce que c'est vrai qu'en général, les colocations, tout le monde s'organise pour le bouche à oreille, hein, dans vos pays, où justement, on a peu de chances finalement de se retrouver en colocation avec des gens éloignés de sa propre origine familiale.
Ouais, bon, exactement. Juste en fait, le garçon avec qui je suis ensemble, c'est juste un ancien ami à mon frère.
D'accord, qui a fait le lien.
Qui a fait le lien. Bon, c'est pas lui qui nous a proposé de vivre ensemble, mais l'idée vient de moi et de mon ami avec qui on vit.
Merci Ali, en tout cas, on va se quitter parce que la ligne téléphonique a tendance à faire des siennes et à faire des coupures. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé de N'Djamena pour nous faire partager cette belle expérience. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Agnès qui nous appelle de Bruxelles. Bonjour Agnès.
Bonjour Emmanuel.
Pardon, Dakar. Vous êtes à Dakar. Vous êtes étudiante, vous avez 24 ans, vous êtes centrafricaine si je me trompe pas, et vous cohabitez avec d'autres étudiants non sénégalais, je présume, qui sont venus pour leurs études à Dakar.
Oui, exactement. Et je voudrais dire que la colocation n'est pas du tout quelque chose de facile, surtout quand on n'a pas les mêmes principes, quand on n'a pas la même éducation. Par exemple, moi, de par mon éducation, il y a des choses que je ne partage pas.
C'est-à-dire,
je suis presque, par exemple, mes ustensiles de cuisine, mes habits, mes chaussures, mes trucs d'entretien, par exemple, mes peignes de cheveux et tout, je ne partage pas. Bon, là où je suis avec une petite cousine et on partage l'appartement avec d'autres étudiants. Bon, moi, je suis tout le temps absente parce que, voilà, je fais mon stage et je suis dans plein d'autres activités. Mais à chaque fois quand je rentre à la maison, je remarque qu'il y a des cuillères qui manquent, ou bien il y a la carafe qui est chez les voisins, ou bien des verres, des fourchettes qui manquent. Et c'est toujours une source de dispute avec
c'est
la personne.
C'est ça, ouais.
Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Même avec elle, je ne supporte pas qu'elle utilise mes crèmes, mes déodorants, ou bien qu'elle utilise mes chaussures, ça.
Oui, vous avez l'impression finalement, mais ça semble normal, vous avez l'impression qu'on entre un peu trop près dans votre espace personnel.
Voilà.
Karine Goudiabi.
Alors, le conseil numéro un, bonjour Agnès, peut-être le conseil numéro un qu'on donne aux utilisateurs du site, assez rapidement d'ailleurs, quand ils nous utilisent, c'est de signer une charte de la colocation.
Touches pas à mes affaires.
Voilà. Il y a un bail de colocation qui les protège d'un point de vue juridique, et c'est un élément important, mais presque de manière plus importante, essentielle, c'est cette charte de colocation qui définit les règles du jeu entre colocataires. Parfois, on sous-estime cette étape, et donc on démarre une colocation en se disant, bon, on va être amis, on va apprendre à se connaître, et il est souvent important de clarifier ces règles du jeu au départ. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour toi? En le sachant, on évite ce type de conflit par la suite.
Et on les met par écrit au besoin, donc. Hein.
Exactement.
Merci de nous avoir appelé pour ce témoignage. On voit bien que c'est quand même à la fois il y a des rencontres merveilleuses et des découvertes telles ce que vous nous avez raconté dans votre livre Mathurin, hein, quand vous qui avez cohabité avec une personne qui avait 40 ans de plus que vous.
Il y a aussi des règles.
70 ans de plus que vous.
Ouais, là, 60 ans. Mais aussi c'est vrai comme le rappelait Karim, il y a des règles même pour une association comme ça intergénération. On partage un logement. Mais on partage pas ses produits, ses affaires, et c'est vrai que plus les règles sont données tôt, en amont, et mieux on vit ensemble, généralement.
Juste une question à propos des réglementations pour vous, Karim Goudiabi, puisque vous êtes directeur d'un site de colocation qui s'appelle apartager.com. La réglementation est différente d'un pays à l'autre.
Oui, totalement. Nous, on renseigne nos utilisateurs sur ces différents pays. En Angleterre, par exemple, ce sont des baux d'un an systématiquement, mais qui peuvent être, terminés avec une période de préavis d'un mois. Donc très flexible. Alors qu'en France, on va signer des baux sur la base de la location meublée d'un an également. En Allemagne, c'est différent. En Espagne, c'est différent. En Italie, c'est différent. Donc, il faut bien se renseigner là-dessus et sur la caution.
C'est-à-dire que caution, ça peut être une caution commune, une caution solidaire ou une caution individuelle?
Alors, on recommande effectivement la caution individuelle pour éviter des situations où la colocation se passe de colocataire en colocataire et le dernier colocataire est celui qui se retrouve à avoir payé éventuellement les dégâts.
Les impayés de ceux qui sont partis.
Exactement.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Cécile qui est à Bruxelles. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour madame.
Cécile, alors vous avez 53 ans, vous êtes une propriétaire.
Oui, c'est ça.
Ouais, à l'image d'ailleurs du continent européen, parce que moi j'ai revu les chiffres là, l'Europe est un continent de propriétaires. Hein. La moyenne dans l'Union européenne, c'est la moyenne des foyers sont propriétaires, plus de 65% des foyers sont propriétaires de leur logement. Hein.
Oui, effectivement.
Ouais. Et alors vous, vous nous appelez pour nous parler de colocation?
Oui, de tout ce que j'entends là, c'est pour vous dire que c'est interdit de la colocation, surtout pour des personnes qui sont qui reçoivent la location de chômage ou bien qui sont au CPAS, l'équivalent de l'aide sociale publique.
En Belgique, donc.
Oui, ça c'est interdit. Vous pouvez pas, sinon vous perdez vos allocations.
C'est ça. Donc une personne qui veut être en colocation pour dépenser moins pour un loyer, paradoxalement perdrait ses aides sociales.
Automatiquement.
Et ça serait la même chose pour des mères isolées, par exemple, des choses comme ça?
Des mères isolées, c'est la même chose.
Ah oui.
C'est pas le cas dans tous les pays.
Oui,
hein.
En France, on perd pas son, aide sociale. Oui,
non, c'est vrai. Et par rapport aux colocations intergénération, au tout départ, c'était vraiment réservé aux étudiants. Et là, ils sont en train d'ouvrir justement l'offre aux chercheurs d'emploi également.
Oui. Et d'ailleurs, aux retraités qui ont une toute petite retraite,
totalement.
Etc.
Oui. Par contre, si on est propriétaire et qu'on reçoit un loyer en colocation, il y a effectivement un aspect juridique à prendre en compte pour le paiement des impôts. Il y a aussi le partage de la taxe d'habitation. Enfin, il y a quelques éléments spécifiques comme ça dans chacun des pays. Mais pour donner l'exemple de l'Angleterre, il est possible d'avoir des aides de logement du type HLM et d'être en colocation. En France aussi, il est possible de trouver une colocation en HLM.
Et alors vous, Cécile, vous déplorez cet état de fait. Je crois que vous avez monté une association, c'est ce que vous avez dit au Standard?
Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, on ne peut pas, la solidarité, c'est interdit ici en Belgique. Surtout pour des personnes qui dépendent du CPAS ou bien qui sont des allocations.
Donc l'équivalent du RSA. Hein?
Voilà. Même on a créé une association pour essayer de contourner peut-être la loi. Même avec les personnes âgées, on ne peut pas les placer avec notre personne qui est du CPAS ou bien du chômage parce qu'elles sont mal là-bas. Les deux perdent. Donc c'est vraiment une pénalité qui est basée sur... on ne comprend pas. Même le propriétaire veut dire « je veux donner deux contrats », c'est interdit pour le même appartement. Alors, c'est triste parce que les gens commencent à faire des choses qui ne sont pas légales, à chercher des adresses fictives pour pouvoir avoir une adresse de 200 euros, ils ont ça, et quand même ils essaient de cohabiter pour essayer de joindre les deux bouts du mois avec le peu qu'ils ont.
Ouais, Karim Goudiabi, vous, votre site est présent en Belgique hein?
Oui, on offre d'ailleurs deux services en Belgique, un service de colocation classique avec un site qui s'appelle apartager.be et un site de cote, puisque les étudiants, eux, ont un peu l'équivalent des chambres de bonne, qui s'appellent des cotes, K-O-T, et notre site s'appelle KidCot sur place.
Donc des tout petits logements.
Exactement.
Et vous ressentez ce frein-là, justement, pour des personnes qui disent « Ben non, moi je veux pas me mettre en colocation parce que je perdrai les aides sociales que je perçois ?»
Non. Enfin, j'ai pas, à ma connaissance, on n'a pas eu de ces remontées-ci, mais c'est possible qu'à notre service client, beaucoup d'utilisateurs nous demandent quand même des conseils juridiques régulièrement sur la colocation. Et j'imagine que cette situation-ci a existé.
Merci Cécile de nous avoir alerté sur cette situation-là en Belgique qui ne facilite évidemment pas la colocation pour les personnes qui pourraient en avoir le plus besoin. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Bruxelles. Nous sommes en ligne maintenant avec une toute jeune association allemande. Bonjour Golde Hebding.
Bonjour.
Alors ça, c'est une association que nous avons contactée, hein, Golde Hebding. Vous êtes cofondatrice de l'association Réfugiés Bienvenus à Berlin, qui a été créée il y a près de 6 mois. Il y a déjà un site internet que vous pouvez aller visiter si vous nous écoutez, les voisins, refugees-welcome.net. C'est la première expérience de ce type en Allemagne.
Bon, je crois qu'il y a des groupes locaux qui ont une offerte similaire, mais... Notre projet, ça travaille partout en Allemagne et il y a beaucoup de collaborations avec d'autres organisations. Donc ça, c'est unique jusqu'à maintenant.
Mmh. Quel est exactement le principe? Comment ça fonctionne, Golde?
Donc l'idée, c'est de donner la possibilité aux réfugiés de vivre ensemble avec des familles allemandes, avec des étudiants, quoi que ce soit, et de pouvoir quitter le camp où ils sont obligés normalement de vivre pendant leur processus d'asile. Et pour ça, en Allemagne, il y a pas mal de possibilités de recevoir un soutien financier. Donc, il y a la possibilité de la prise en charge des frais du gouvernement allemand. Et nous, on est là pour organiser ce processus de quitter le camp, de faire connaissance d'une famille, des étudiants.
Il faut préciser que les centres d'accueil de la capitale allemande sont assez débordés, qu'il y a eu aussi des villages, 6 villages de containers aménagés qui ont été construits à la hâte, mais il y a évidemment un manque de logements pour ces réfugiés. Mais quel est le statut de ces réfugiés que vous parvenez à placer dans des familles?
Ça dépend. Donc pour nous, c'est important qu'on ne fait pas de différence entre les différents statuts. Donc on a des réfugiés...
Avec ou sans papier, donc?
Il y a des sans-papiers, il y a des réfugiés qui ont déjà reçu leur reconnaissance de réfugiés politiques. Et il y a des réfugiés qui sont encore dans leur processus de demande d'asile.
Et ça n'inquiète pas les familles de se retrouver dans l'illégalité? D'héberger une personne sans papier?
Si, ça leur inquiète, bien sûr. Mais en Allemagne, c'est... Effectivement, il y a une loi qui interdit le soutien au séjour irrégulier d'une immigrant, mais au cas où il y a une personne individuelle qui aide à une autre personne individuelle par des raisons humanitaires, et il n'y a pas de punition...
Donc on table sur finalement des mesures qui ne seraient pas prises. Comment vous trouvez des familles volontaires pour héberger une personne réfugiée?
Donc il y a la possibilité de s'enregistrer sur notre site. Là on peut concrétiser l'offre, donc dire pour combien de temps, si on peut l'offrir gratuitement, tout cela. Et on a également présent sur Facebook, ce qui attire beaucoup d'étudiants. Et
ça a été pas mal relayé par la presse en Allemagne, je crois.
Ouais. Ouais.
Quel est le bilan là de ces premiers mois de ce site, refugees-welcome.net?
Donc jusqu'à maintenant, on a pu réaliser 35 classements. Dans toute l'Allemagne, et On a également une réfugiée welcome en Autriche. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de préparer, de réaliser ce projet-là dans leur pays, également en France par exemple.
Qui vous contactent donc?
C'est ça, ils nous contactent et ensemble on essaye de le réaliser dans les autres pays européens.
Mmh. Est-ce que justement les difficultés de l'Europe face au drame de l'immigration en Méditerranée notamment, est-ce que ça crée parfois des électrochocs dans des familles?
Tout à fait. Par exemple, là, il fait 4 semaines, je crois, qu'il y avait eu cet incident où il y avait beaucoup de morts. Mmh. Et c'était beaucoup dans la presse, dans partout. Et là, on a eu une augmentation énorme des registrations des familles et des étudiants. Donc, ça a un grand effet. Mmh.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Golde Hebding. Vous êtes cofondatrice donc de cette association refugees-welcome.net. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Abdel. Abdel, vous êtes en ligne avec nous de Montréal.
Bonjour Emmanuel.
Oui, Abdel.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Moi, j'ai vraiment une très bonne expérience de colocation quand j'étais étudiant au Togo, en République au Togo à Lomé, à l'Université du Bénin. C'était dans l'année 89 à 95. Vous savez, c'était l'université qui mettait les gens ensemble dans les résidences, dans les chambres. Vous allez partager 2 chambres à 3 à 2 étudiants. Vous ne vous connaissez pas au départ, chacun reçoit juste une clé, puis vous trouvez qu'il y a 3 lits là-bas que vous devez partager toute l'année scolaire avec ça.
Oui, personne ne se choisit finalement.
Personne ne se choisit exactement. Donc vous ne vous connaissez pas au départ. C'est, vous pouvez vous retrouver avec des étudiants togolais ou bien avec des étudiants qui viennent d'autres pays. Et vous n'avez pas du choix.
Oui, justement, oui, Abdel.
Mon expérience était vraiment agréable parce que j'ai gardé un contact avec mes co-locataires jusqu'à aujourd'hui dans la vie professionnelle. On se voit, on se parle, on se propose même dans les projets ensemble.
Oui, c'est ce que vous nous disiez, Karim Boudiabi. Hein, quand la colocation se parle bien, on reste relativement proche. Merci, Abdel, de nous avoir appelé de Montréal. Le fait d'avoir tout de même le sentiment de se choisir un minimum, c'est comme ça que procèdent les étudiants quand ils se mettent en colocation via des sites comme le vôtre?
Oui, et c'est l'un des points les plus importants. On dit que la colocation, c'est partager plus qu'un toit. Et c'est important qu'on puisse se choisir, réfléchir à son style de vie, s'assurer de s'associer avec quelqu'un qui partage ce style de vie. Et on demande à nos utilisateurs de ne pas être, focalisés sur la pression de la location du logement ou du prix.
Oui, c'est ça. Et sur le logement lui-même, d'ailleurs. Les personnes à qui on cohabite comptent autant que la taille des pièces, peut-être.
Il vaut mieux une petite chambre et un petit salon et un colocataire avec lequel on s'entend bien qu'un grand appartement dans lequel on ne se parlera pas. Oui. Parce qu'ensuite, on oublie un petit peu les avantages de la colocation.
Et pour ma part, c'est vrai que au tout début avec Germaine, on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'on a
pris le thé ensemble. C'est ça, elle vous a invité à prendre le thé pour voir si vous alliez convenir aussi.
Exactement.
Si vous alliez lui plaire.
Et oui, il faut quand même qu'on voit si on est compatible en termes d'humeur et tout simplement rencontrer la personne.
Et vous, à 96 ans, vous avez perçu que cette dame-là, elle avait de l'humour.
Oui. Ah. Oui. Bah déjà l'ouverture, parce que quand je suis venu, je lui ai montré mes dessins. Histoire qu'elle sache quand même qu'elle était avec un étudiant qui n'était pas en médecine, mais qui sortait des arts déco. Donc c'est toujours, ça peut faire peur. Et en fait, je l'ai trouvée très curieuse au niveau des dessins, et souvent avec des bons mots. Donc je me suis dit, ça risque de coller, donc allons-y.
Karim Goudiabi, quelles sont finalement aujourd'hui les conditions pour que la colocation se développe dans une ville, quand je vois que vous êtes présent dans 25 pays?
Il y a plusieurs phénomènes. Je pense qu'il y a le coût du logement, qui est un phénomène important, le nombre d'habitants dans les villes, qui est important, même si on retrouve des colocations dans des plus petites villes, la présence d'étudiants, c'est souvent un passage obligé. Et aujourd'hui, la colocation, de plus en plus, c'est un peu la première marche, je dirais, de l'échelle ou de l'escabeau pour s'inscrire sur le marché de l'immobilier. Ça, c'est les éléments les plus importants. Et ensuite, un désir de vivre ensemble.
Peut-être en conclusion, je voudrais vous lire le message de Clémentine que je laisserai à votre appréciation. Elle a posté sur Facebook il y a quelques minutes. Conclusion, donc, après 7 ans de coloc pour Clémentine, plus la colocation est petite, plus c'est difficile car la vie quotidienne se rapproche de la vie de couple où les rapports se hiérarchisent, notamment lors du partage des tâches. Dans la coloc à 11 personnes où elle a vécu, le plus grand défi, nous dit Clémentine, c'était de réussir à se retrouver tous pour partager des moments ensemble au moins une fois par mois. 11 personnes.
C'est grand.
C'est grand pour une colocation.
Ouais, c'est grand.
Il y a un chiffre, il y a une taille merveilleuse, il y a une taille où ça marche, une taille critique.
Non, pas que je sache. Je sais que la moyenne des colocations, c'est 3 personnes, donc ça, c'est plutôt des grandes colocations. Mais 11 personnes, c'est vrai que ça permet peut-être plus une rotation des tâches ménagères. 2 personnes, c'est probablement plus une vie de couple, effectivement.
En colocation à 50 ans, à 60 ans, à plus, c'est possible? C'est le marché de demain?
C'est certainement le marché de demain. C'est ce qu'on voit sur le site avec, c'est une part petite hein, des utilisateurs, mais on voit une augmentation.
Vous y voyez personnellement en colocation à 70 ans
Ce que je dis souvent, c'est que ça peut m'arriver de me retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire d'être la personne âgée accueillant un étudiant, pourquoi pas.
Merci en tout cas à tous les deux. Karim Goudiabi à partager.com, premier site de colocation en France, et Mathurin à découvrir, votre vrai nom c'est Stéphane Audouin. Vous avez publié J'habite au troisième âge aux éditions Le Mieux. Merci à vous tous les voisins et les voisines pour vos témoignages toujours extrêmement riches. Vous savez que c'est vous qui faites l'émission du lundi au vendredi. Et merci bien sûr à toute l'équipe, Didier Cherouz, Romain Dubrac, Eleonore Krenig, Didier, Jonas Mallet-Solars qui accueille vos témoignages au standard. Et pour toutes vos réactions, vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons du Canada qui connaît à la fois croissance économique et démographique. Et si c'était l'Eldorado de demain.